Bonjour. On va régler. Alors moi, je vais parler de Bagdam, mais je vais parler de notre œuvre de désintoxication, de l'acculturation générale. Je voudrais dire que pratiquement l'acculturation que l'on vit dans le monde, dans le mainstream, enfin, c'est comme une intoxication. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour résister à une intoxication? Eh bien, en connaissant son antidote, naturellement. Alors, ça, c'est ce que j'appelle le travail de la pensée. Trouver l'antidote à ce qui nous intoxique. Concevoir, donc, puis identifier. Vous me dites si le son va bien, s'il faut se pencher. Donc, concevoir, puis identifier l'antidote. Un poison qui est mental, hein, qui est sociétal. Il faut savoir que de son côté, le corps aussi détient ses anticorps. Et je ne vais pas vous apprendre rien du tout en vous disant que le corps lesbien produit lui-même ses anticorps puissants, qui sont capables d'exprimer donc, notre résistance, souvent dès l'enfance, et puis dès l'éveil des désirs, naturellement. Alors, est-ce qu'il faut souligner aussi que la pensée lesbienne procède de ce corps lesbien en tant qu'il est, de facto, le premier facteur de résistance? Alors, individuellement, bien sûr, d'abord, solitairement, il nous a fallu beaucoup d'images toxiques, lire beaucoup d'œuvres infectées, avant de trouver le mode d'emploi, enfin la bonne marche à suivre. Et puis, dans les années 60, pour les États-Unis et le Canada, l'Amérique du Nord, et 70-80 pour nous, on est sorti, enfin il a fallu tomber, bien sûr, avoir la chance de tomber sur la bonne période, hein, d'être là, dans le bon groupe, ou tomber sur plus d'une, voire plusieurs, voire un tas de désintoxiqués pour construire notre coming out. Et dans cette histoire récente de ce coming out, de ce long, lent, mais soudain explosif coming out des années 70-80, notre histoire a d'extraordinaire qu'elle a permis donc à des pensées singulières qui se construisaient chacune dans son coin de créer la faculté collective de résistance. Et là, à partir de là, tout à fait image. Alors, quand on connaît un remède, vous savez bien qu'on aime bien le partager, on aime bien se le refiler. Ben, c'est ce qu'ont fait les lesbiennes désintoxiquées. Elles étaient toutes artisanes ou transfuges du mouvement des femmes, dit de la deuxième vague. Et dès les années 60-70, comme j'ai dit, se sont regroupées pour partager leur pharmacopée, échanger leurs bonnes adresses, et se constituant elles-mêmes, d'ailleurs, comme bonnes adresses. Le fait est que, rapidement, cette pharmacie de campagne s'est constituée en internationale aimantée de corps aimants, d'anticorps, qui était la partie émergée de ce peuple lesbien parti combattre l'ennemi principal, le corps épais de l'hétéro-société. Et nous qui avons été jusque-là isolés, seuls ou en couple, ou au mieux avec quelques copines, tout d'un coup, enfin, on s'est retrouvés reliés. On a compris que on a identifié collectivement ce plaisir absolument révolutionnaire d'être ensemble. Jusque-là, c'était un impensable. Alors, évidemment, déjà, s'exclure volontairement dans notre enfance ou adolescence, surtout, s'exclure volontairement de la norme qui avait empoisonné nos têtes et nos vies, avait déjà représenté un travail de force, on le sait. Mais se retrouver donc soudain en groupe constitué, corps lesbo-social, comme je l'appelle, ça a été une sorte de dénivrement, naturellement. J'ai donc appuyé là juste sur deux points. L'un douloureux, qui est que j'appelle le conditionnement, et c'est-à-dire l'aliénation. Le conditionnement, c'est l'aliénation. Le deuxième point est heureux, c'est le déconditionnement, naturellement, mais qui ne va pas sans mal avant de pouvoir faire du bien. Déjà repousser la violence hétérosociale dans nos têtes, les neurones, les yeux, la bouche, les oreilles, qui se pavanent sur tous les écrans, qui s'étalent à longueur de page, à longueur de linéaire, de galerie, de musée. Tout ça, déjà, ça représente une résistance épuisante. Mais alors, un autre boulot à plein temps de la lesbienne, de l'identifiée lesbienne, disons, c'est qu'à ce langage unique du colonialisme patriarcal, à cette épuisante scission permanente homme-femme, à ces images jamais contrariées par l'establishment médiatique mâle, qui aujourd'hui d'ailleurs, et j'y reviendrai, affiche d'être homophile d'une certaine manière. Mais il est toujours aussi acculturé au niveau lesbien. Donc la lesbienne cultivée, entre guillemets, devra inlassablement opposer son propre bouillon de culture. Alors, bien qu'on soit des centaines, des milliers ou des millions, selon qu'on considère nos groupes, nos réseaux, nos continents, c'est une bataille, en fait, quasi anonyme que livrent celles qui détendent et promeuvent la culture lesbienne. Beaucoup est encore à faire pour historiciser, décontextualiser les processus de création et de pensée qui s'avèrent en fait bien plus anciens que ceux qu'on a explorés depuis 3 ou 4 décennies, on le sait. La communication de Suzette Robichon hier sur l'histoire du sexisme et de la lesbophobie dans le sport le montre. Donc, malgré l'ampleur des fois décourageante de ce travail et la colère évidemment qui l'accompagne, alors moi je l'appelle le syndrome du neveu, c'est-à-dire le neveu qui arrive et qui pose les scellés sur les archives de la tante, qui empêche, qui brûle ou détruit la correspondance amoureuse, et là je pense à Emily Dickinson entre autres. Donc évidemment, je veux dire, quand on a cette colère qui peut être évidemment paralysante, celle qui s'adonne pourtant à ce travail de fouille, elle le font, pour elle c'est très plaisant. Mais alors, ce qui est encore plus plaisant, c'est de faire partager les résultats aux autres lesbiennes, et on y arrive. Il faut que ce soit convaincant pour les lesbiennes elles-mêmes. Et là, je parle justement du contexte d'une association comme Bagdam, dont l'obsession, c'est comme si on se considère presque comme un centre anti-poison, d'une certaine manière, puisque c'est là qu'on concocte notre antidote à l'intoxication générale et à l'acculturation générale de l'homosexualité dans la société. Alors, je voudrais noter qu'une fois qu'on a vécu cette pure volupté de la découverte de nos groupes, cette espèce de gigantesque coming out des années 70 et 80, où il y avait en France et dans plein de pays d'Europe, en tout cas, il n'y avait pas une ville, même moyenne, qui n'avait pas une association qui se créait, une permanence. Déjà commençaient les festivals, et évidemment, Anne de Cinéfable va nous le raconter. Il a fallu se rendre à l'évidence quand même, très vite, que nos ennemis sont multiples. Mais y compris en nous-mêmes, d'une certaine manière. Parce que, pour corser la complexité de la désintoxication, il a quand même fallu traiter d'autres zones infestées, colonisées, rester colonisées. Et ce n'était pas des plus jouissifs, et même encore aujourd'hui, enfin j'en parle en connaissance de cause, puisque je suis blanche, classe moyenne, nordiste. Donc faire craquer les bubons hégémoniques des blanches classe moyenne, ce n'est pas super cool, enfin il faut le faire. Contester par exemple les imaginaires univoques d'occidental, du Nord, c'est déstabilisant. secouer les frilosités internes à nos groupes, enfin par rapport à l'international, enfin on est peu doué pour les langues en France, enfin c'est navrant mais c'est comme ça. Donc on est des fois, malgré le règne d'internet, on est assez cloisonné, même si là on est ici justement pour prouver qu'on résiste à tout ça, le mot résistance étant évidemment important. Et puis, alors, à part ce côté vexant de ne pas être assez relié, évidemment, le fait d'analyser nos phobies, nos ignorances transversales ou des pluridiscriminations, je fais évidemment allusion à la racisation, la colonisation, le handicap, la précarité, les transidentités, enfin tout ça, ça bouscule notre modeste confort de modeste vertical et modeste aisé, parce qu'on l'est jusqu'à un certain point naturellement. Et puis alors, il y a une autre tâche politique assez ingrate et assez peu couronnée de succès, et dont l'épisode d'hier après-midi montre bien la réalité, c'est que bousculer chez certaines leurs illusions d'une alliance objective, alors ça c'est une terminologie de 68, donc bousculer ça chez des lesbiennes, enfin, qui sont dans d'autres groupes mixtes, gays et trans, bon, qui sont évidemment historiquement discriminées aussi, mais qui, en contrepartie, on le sait bien, la communication de Christine de Doharé l'a redit avec colère, ils ont très peu, enfin, ou pas, eux, d'objectifs d'alliance solidaire avec les lesbiennes, hein. Et donc la fusion avec ces groupes mixtes, dont la mixité, on sait bien, se répartit grosso modo en 1/5, 4/5, c'est vraiment difficile, parce que c'est les lesbiennes qui militent dans ces groupes, qui en général ne sont pas issues des combats féministes qui ont précédé, trouvent cette union naturelle ou souhaitable. Cette union de la mixité avec les gays, les bi, les trans. Et lorsque ces groupes, majoritairement gays et trans, n'ont visiblement, on le sait, pas travaillé leur misogynie, voire l'affiche sans complexe, hein, on le sait, ils ignorent même la notion politique de domination, il va sans dire que les lesbiennes qui font partie de ces groupes restent, hélas, intoxiquées, selon ma comparaison, ou le deviennent même parfois presque volontairement. Alors, ça, c'est un des effets sidérants de l'aliénation, en fait. Hein, non seulement patriarcale, mais que je tends de plus en plus à définir comme fratriarcale. Car, enfin, on a affaire là à un fratriarcat de dominants, lui-même, évidemment, émanation et corps établi, d'une certaine gaiétude misogyne et lesbophobe. Donc, on assiste là à un éblouissant retour de bâton de cette loi des pères qu'on a combattue et qui maintenant nous refile leurs fils, c'est-à-dire nos frères, soi-disant, en gaiétude. Moi, je l'avale pas, ça, vraiment. Et personne autour de nous à Bagdad. Alors, je l'ai rappelé en introduction, hein, ce qui a caractérisé notre opération de renversement épistémologique du discours dominant, hein, assimilable donc à ce poison, a été la conscience de détenir le contrepoison, et puis de le partager partout. Partout, il y a de la lesbienne, donc partout. Et aussi, en même temps qu'on le partage, le protéger, parce qu'il faut protéger cette transmission. C'est ça le rôle des associations qui militent pour partager ce savoir, évidemment, bétonné par l'ignorance hétérosociale. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait, donc, ces lesbiennes, comme nous, à Bagdad, à Toulouse, mais pas que, pour résister? Eh bien, beaucoup de choses, hein, on s'en doute, mais on verra ensuite, en débattant, qu'il y a plein de choses qui viennent nous mettre du plomb dans l'aile, quoi, hein. On avait des ailes, mais il y a du plomb dans l'aile, c'est clair. Alors moi, je voulais quand même visiter là maintenant le travail politique hein, qui se de fond, qui est jouissif, qui est révolutionnaire, hein, qu'il est, c'est l'investissement, la diffusion de nos cultures. C'est en fait moi je le fais. Je l'assimile à un travail de sape, parce qu'en effet, c'est bétonné tout autour de nous. C'est des plaques entières, rigides, d'ignorance, de mépris. Enfin, c'est une politique de déconsidération, de minimisation dont on a à se défendre. Mais ça, c'est l'éternelle stratégie du territoire occupé, de toute façon. Hein. Et là, maintenant, c'est nos modernes dominants, hein, les fratriarches masculinistes, post-féministes, qui sont à la manœuvre. Et le champ d'exclusion des lesbiennes, à la fin, eh ben, il est, par invisibilisation, il se déroule tous azimuts. Et vraiment, bon, moi, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé autour de la militance, autour du mariage gay, a confirmé des choses très étranges de tout ce qui a été dit hier dans le débat sur la non-mixité, évidemment, est à confirmer. Alors nous, on a une pharmacopée puissante pourtant, parce que la première, comme j'ai dit, c'est la circulation et le partage des savoirs. Bon, ensuite, c'est la célébration, c'est très important, la célébration des savoirs, des arts, des expériences. Évidemment, la copine de Laporte, elle a dit, c'est vraiment s'inviter à se rappeler tout ce qu'on sait, à être nous-mêmes des enseignantes, finalement. Et d'ailleurs, le Bac d'âme Espace Lesbien, à l'initiative de Brigitte, pendant 2 ans, on a tenu ce qu'on appelait à l'école des lesbiennes. Bon, on pourra en parler. Donc, alors, oui, bien sûr, elle dit de laisser le temps à la discussion, c'est clair, mais je voudrais arriver... à ce mot que j'aime beaucoup, qui est l'admiration. Je crois qu'on l'a oublié. Il ne s'agit pas d'admiration béate ou obséquieuse entre nous, mais active. Je crois que l'admiration fait partie des contrepoisons possibles de ne pas hésiter à célébrer nos talents et nos... contrairement à ce qui a été inculqué aux filles, évidemment. Et alors l'autonomie, hein, avec cette volonté de faire ensemble, en non-mixité, mais là il y a une espèce de... cette indépendance qu'on revendique peut parfois contrarier stratégiquement la diffusion de notre culture at large. Hein. Et c'est là le bât blesse d'une certaine manière, parce qu'il se heurte précisément à la culturation médiatique et sa misogynie indécrottable, évidemment, et sans parler de la lesbophobie, hein, bon, dont ils ne connaissent même pas le mot, on en a parlé hier, mais ils ne connaissent évidemment pas la construction, et peut-être ils entendraient si on disait la haine des lesbiennes, mais ils se demanderaient peut-être de quoi on parle. Alors c'est rageant, c'est humiliant, mais on a du mal à imposer notre existence hors de nos circuits autarciques, naturellement, et ça on pourrait en débattre aussi, justement, ce plafond de verre de notre... la notoriété lesbienne est absolument est faible dans la société, et c'est évidemment des effets de l'hétéro et de l'homo-expansionnisme, hein, qu'on voit à l'œuvre tout le temps, mais c'est peut-être aussi le fait de notre histoire, enfin de nos pratiques, un certain rejet légitime, mais un peu gauchiste, des institutions, la méfiance d'ailleurs justifiée, hein, des médias audiovisuels, et paradoxalement, le mépris peut-être d'une visibilité de premier plan. Ça, c'est vraiment bon, des choses qu'on peut échanger ensuite. Mais surtout, et je vais finir là-dessus, pas tout à fait, parce que y a aussi le positif, il faut finir par le positif, mais je voulais dire quand même que cet adversaire, il a plus d'un tour dans son sac. Alors, c'est là que le débat, il va jouxter naturellement celui de la non-mixité, on y revient toujours, c'est-à-dire de la visibilité et de la fierté. Il va sans dire qu'à Toulouse, depuis la création de Bac d'âme, en 89, donc, notre rapport d'adresse, il est lesbien, il est obsessionnellement lesbien. Mais pour obtenir ça, il faut élever un espèce de rempart de légitimité forcenée. C'est-à-dire que quand, du temps de Bagdam Café, on fermait l'entrée au mais le gentil copain, le copain gay, le, tout ça, c'était facile. On disait à la fille, mais non, 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 on reste, les mecs rentrent pas. Mais maintenant, il ne s'agit plus de ça. Hein. Et on va, ça, je le garde pour le débat, parce que ça reproduit en fait ce qui a déjà été dit hier, entre autres, par Christine Le Doiré. Mais quand même, depuis l'ouverture de Bagdam Café, Brigitte s'est appliquée à relever toutes les invités qui sont passés là. Et il se trouve que du temps de Bagdam Café, il y en a eu quand même 255. C'est assez important. Et depuis que Bagdam Lesbien existe, de 2000 à 2013, on en a eu donc, alors 255 invités en 10 ans et 155 dans les dernières 14 ou 15 années. Donc en 24 ans, plus de 400 invités sont passés, évidemment pas que françaises, de toute l'Europe, des États-Unis, beaucoup d'Amérique du Nord et d'Europe aussi de l'Est. Et dans les 16 printemps lesbiens, on a compté 131 événements. Voilà. Pendant les 6 colloques internationaux, il y a eu là 157 invités pendant de 2000 à 2009. Donc, elles sont venues des pays suivants, d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Maroc, ça c'est pour le continent africain, le continent américain, donc Canada, donc Québec, États-Unis, Brésil, Mexique, Paraguay, République dominicaine, continent asiatique, Inde, Maldives, peu d'Asie, et puis en Europe, Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Suisse. Alors, on s'est déplacé aussi beaucoup, et c'est ça qui vraiment nous fait, je sais pas, nous porte aussi. C'est qu'on se porte, on est porté par notre envie d'accueillir, mais aussi on est porté pour aller ailleurs, pour partager notre expérience, et toujours dans cette obsession de la célébration. Alors, je ne vais pas terminer sur ce que j'avais dit, c'est-à-dire les freins et les contre-freins, puisque déjà ça a été évoqué hier, ce qui se passe dans la mixité, mais quand même je voudrais dire le discours post-féministe, c'est vraiment, c'est une fable presque paranoïaque, enfin c'est un cocktail flatteur qui fait qu'en sorte que se retrouve au même niveau la revendication des femmes racisées, celui des prostituées, celle des gays, des transgenres et des intersexes, bien sûr. Mais en associant sur le même plan ces luttes, on inocule l'idée, évidemment, tout ça c'est une conspiration misogyne, on inocule l'idée que les femmes, disons, de couleur, n'ont pas tant à voir avec le féminisme, mais avec le colonialisme. Évidemment, on sépare du coup les femmes entre elles. Alors après, on scinde, bien sûr, on dit qu'on est victime de l'impérialisme hétéro, qui scinde les genres, mais alors là, vraiment, c'est pas un scoop, je voudrais vous dire, quand même, on y est arrivé avant eux. Et du coup, en fait, la lutte actuelle, enfin, la lutte permanente contre le patriarcat et la domination masculine, qui est quand même la nôtre, elle est remplacée par un combat à la mode, hein, contre l'hétérosexualité, non seulement contre le mâle blanc, mais contre les féministes, en fait. Et c'est ça qui nous plombe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va continuer, de toute façon. Et là, y a vraiment, vraiment... on n'a pas à céder. Je crois qu'il ne faut jamais céder. Et on l'a montré hier, on le montrera encore aujourd'hui. Vraiment, on est là pour défendre cette non-mixité qui nous donne la légitimité, la fierté d'être dans nos groupes et dans nos villes et dans nos vies. Voilà. Je dirai d'autres choses après. Merci.
Bon, alors, pour terminer avec Bagdam, je précise à celles qui ne connaissent pas qu'il y a une lettre hebdomadaire d'information internationale que Bagdam distribue de très jolies cartes postales. Vous aurez, surtout pour les étrangères, le site et vous pourrez vous inscrire, si ça vous intéresse, à cette lettre internationale de Bagdam, dont la dernière était hier et qui est très, très intéressante parce que ça nous apprend plein de choses et vous pouvez contribuer à cette lettre. C'est-à-dire, si dans votre pays, il se passe quelque chose, vous écrivez à Bagdam et ça passera dans cette lettre qui est distribuée, je crois, à 450 personnes et qu'en plus, la CLF redistribue également. Donc voilà, c'est une information qui peut être utile pour celles qui ne connaissent pas encore cette lettre hebdomadaire. Bon, alors la dernière, alors je ne sais pas si on fait le débat maintenant ou si après. Donc je présente la dernière association, Cinéfable, c'est Anne Beniguel qui parlera. Elle est membre...
Ah pardon, Anne et...
Ah ben j'ai... Bon, Anne et qui... et Oksana, pardon, qui parleront pour l'association. Donc, Cinéfable, c'est le Festival international de films de femmes, festival non mixte de lesbiennes et de féministes. Le 25e festival aura lieu en 2013, et c'est non seulement des films, mais également des débats, des stands, des expos, des cafettes. Entre 1300 et 1800 lesbiennes viennent sur 4 jours, et en plus du festival de novembre, il y a le printemps Cinéfable et le best-of. Et le Cinéfable promeut les œuvres de femmes, aussi bien en peinture, en dessin, en musique, en littérature, etc. Ce qu'il y a de très intéressant dans Cinéfable, c'est son fonctionnement. C'est un fonctionnement collectif, absolument non hiérarchique, en équipe. Vous avez par exemple l'équipe programmation, traduction, restauration, finances, techniques, bénévoles, fêtes, etc. Et les décisions sont prises en commun en commission plénière une fois par mois. Et l'organisation des équipes est totalement indépendante. Donc, quand un projet, tout projet peut s'engager à condition qu'il soit porté par au moins une et si possible plusieurs femmes. Par exemple, quand des femmes fanatiques de musique ont dit qu'il faut qu'il y ait un concert lors de l'inauguration, eh ben, ça a pu être mis en place puisque des femmes l'ont monté. Donc, ce n'est pas des yaka, il faut qu'on, c'est vraiment on a un projet, on agit. Il faut faire, on fait, et ça roule. Donc, les dernières choses à dire, les actions de Cinéfable sont majoritairement autofinancées. Par exemple, et c'est sûr que la commission restauration aide beaucoup à baisser le prix des billets, qui rend donc le festival accessible à toutes. Et je dirais pour conclure que c'est un magnifique exemple d'autogestion lesbienne, démocratique et durable, puisque ça fait 25 ans que Cinéfable existe. Donc je passe la parole à Oksana et à Anne.